Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous et bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Salvé et Eric Figuère. Bonsoir messieurs.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Au sommaire de cette émission du rugby avec la première journée du Rugby Championship et de la MotoGP avec le Grand Prix d'Autriche et du football avec la première journée de Ligue 1. On ne parlera pas de Ligue 2 Lionel, malheureusement. Après une page de pub, nous commenterons les autres résultats sportifs de la semaine et nous terminerons par les coups de cœur de nos invités. On va commencer avec vous, Bruno Salvé, avec le rugby. C'était la première journée du Rugby Championship. Un Rugby Championship que un peu particulièrement attendu cette année parce que on sentait les Wallabies un peu mieux, même si depuis quelques mois, même si la tournée contre les Lions britanniques s'était moins bien passée, mais on sentait qu'il y avait un mieux. Ils l'ont confirmé et bien confirmé en allant battre les Sud-Africains chez eux.
Oui, absolument. Ça faisait, je crois, depuis la dernière victoire à Johannesburg
remonte. 63.
Oui, en 1963. Donc ça fait un bail. Et oui, et puis avec une superbe prestation de l'équipe australienne. On s'était rendu compte lors des tests, notamment le deuxième et le troisième test contre les Lions britanniques, que cette équipe était en pleine restructuration, mais surtout en pleine ascension. Et c'est vrai que le deuxième test est perdu vraiment à la fin, et le troisième est largement mérité. Donc la victoire est largement méritée. Donc c'est vrai que cette équipe d'Australie prépare de belle manière la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu chez eux en 2027. Donc c'est de bon augure, d'autant plus que le scénario du match a été totalement improbable.
C'est ça, 22-0 pour les Box à la 18e minute. Donc la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est combien ils vont en prendre.
On pensait tous qu'ils allaient prendre l'eau, mais oui, 22-0. Après, ils ont réussi à marquer un essai. Donc, les Australiens ont réussi à revenir juste avant la mi-temps, 22-5. Et puis, en deuxième mi-temps, ils ont tenu bon. Ils se sont arc-boutés à l'image de toute l'équipe. Hein, une défense très, très compacte. Et puis, surtout, un capitaine courage à Harry Wilson, donc le capitaine numéro 8, de troisième ligne centre de cette équipe des Wallabies, qui s'est permis de marquer quand même deux essais. Et deux essais qui n'étaient pas tout faits, avec des courses assez longues, et notamment
c'est
le deuxième.
Deux essais en contre.
Oui, où il vient en soutien d'une percée. Et puis, il se blesse malheureusement sur cette action. Donc c'est vrai qu'une équipe australienne qui a été vraiment très courageuse et qui marque quand même 5 essais.
6 essais.
Oui, 5 essais en deuxième mi-temps. Donc
6
essais au champion du monde, au double champion du monde en titre, donc les Springboks. Donc ça fait toujours plaisir de voir une équipe qui domine autant ces Sud-Africains qui semblaient vraiment invincibles et qui ont totalement sombré sur leur terrain.
C'est ça, ils n'avaient plus perdu depuis 8 matchs, là, les Box. Et donc, première défaite de l'année.
Oui, un peu trop sur deux peut-être, mais c'est vrai que quand on a une entame de match où on marque aussi facilement, le premier essai était à la deuxième minute du match.
Quoi.
Donc ça, c'est vrai que... Et puis ça a enchaîné, mais on a vu vraiment un très beau match de rugby. Autant des deux côtés, autant la première mi-temps où les Sud-Africains nous ont proposé un rugby total avec à la fois une très belle alternance entre du jeu groupé mais aussi du jeu déployé avec des trois quarts, donc une ligne arrière sud-africaine qui est très rapide, qui propose énormément de jeux. Donc c'était vraiment un match très agréable. Et puis les Australiens, ils ont fait le dos rond, ils se sont resserrés en défense. Et puis dès qu'ils ont eu les opportunités, ils les ont prises. Et voilà, ça, c'est une très, très belle victoire pour cette équipe d'Australie qui le mérite amplement. Oui.
Alors on a hâte d'être déjà au week-end prochain et de
voir
la revanche, puisqu'il y a la revanche, il va y avoir dès le week-end prochain. On va avoir la même journée en copier-coller de ce qu'on a eu ce week-end, avec de nouveau les Box qui vont accueillir les Australiens et les Pumas argentins qui vont accueillir les All Blacks.
Oui.
Mais on pense que, on imagine qu'ils sont un peu piqués au vif, là, nos amis sud-africains.
Les Sud-Africains, oui, ils sont, après la première journée, ils sont quand même troisième au classement. Donc ça veut dire qu'il va falloir absolument un sursaut de cette équipe. Bon, je pense qu'ils ont les moyens de réagir. Donc il va falloir vraiment que les Australiens, s'ils veulent renouveler, après, bon, ça va être plutôt compliqué parce qu'ils jouent encore en Afrique du Sud. Et lors du premier match, quand même, il y a eu quand même pas mal de casses du côté australien, avec notamment le capitaine qui est sorti sur blessure. Donc il y a pas mal de joueurs qui sont sortis sur blessure parce que l'engagement total proposé par les Sud-Africains, il a fallu y répondre et donc ça a fait des dégâts. Donc on va voir, il nous tarde de voir cette revanche parce que je pense que l'intensité va être encore plus importante sur ce deuxième match entre les Springboks et les Wallabies.
Dans l'autre match, c'est les All Blacks qui ont pris le dessus sur les Pumas argentins 41-24, assez logiquement, on va dire, et presque facilement.
Oui, parce qu'on a vu. Bon, on s'attendait un peu. on a eu une première mi-temps où les All Blacks ont largement dominé cette équipe Puma, Argentine. Et puis, en deuxième mi-temps, les Argentins sont revenus en marquant deux essais. Tout de suite, on aurait peut-être pensé au même scénario.
Pour revenir à 7 points.
Ouais. Ouais, et puis après, non, les All Blacks ont remis de la rigueur, ont remis la main sur le ballon et surtout ont pu concrétiser et prendre le bonus offensif. Et puis s'imposer quand même assez largement en fin de match. Donc les Blacks et leur rigueur.
Avec deux essais de Tokeau.
Tokeau, bien sûr, le talonneur, ouais, qui est vraiment un joueur surpuissant. Et puis surtout, ce sont des phases de jeu qui travaillent énormément sur des pénales touches où ils vont vraiment se structurer sur des ballons portés. Et bon, pour les arrêter, c'est très très compliqué, quoi.
On a vu deux joueurs très présents, Cody Taylor et Will Jordan, qui ont été vraiment... Alors Cody Taylor, presque comme d'habitude, j'ai envie de dire, tellement il est à chaque fois omniprésent dans les matchs des All Blacks. Mais Will Jordan, un des meilleurs marqueurs aussi d'essais.
Jordan, je crois qu'il a autant d'essais que de sélections.
De sélections, quasiment, ouais,
C'est un joueur exceptionnel.
Là, qui en donne une offrande.
oui. Non, c'est un régal de rugby de les voir jouer comme ça. Hein. C'est vrai que c'est le seul bémol, c'est que c'est ce public argentin qui, en tant qu'amoureux du rugby et spécialiste du rugby, on n'a pas l'habitude sur le terrain de rugby d'entendre autant de sifflets et d'invectives quand un joueur tente une pénalité ou une transformation.
C'est là, on n'était pas à Vannes.
On n'était pas à Vannes, on n'était pas dans un stade au Leinster ou en Irlande ou même en Angleterre. Donc c'est vrai que le public argentin est toujours très chaud. Et donc il l'a montré lors de cette rencontre, mais ça n'a pas suffi à déstabiliser le buteur All Black, donc Boden Barrett, qui en plus a livré une belle partie aussi.
6 essais aussi pour les Blacks. Et les Blacks redeviennent numéro 1 mondiaux devant les Box.
Alors ils sont passés maintenant au numéro 1, puisque les Box ont perdu contre une équipe qui était beaucoup moins bien classée qu'eux, puisque les Australiens étaient, de mémoire, je crois, 7e au championnat sur le classement mondial. Donc les Blacks passent à la première place, les Irlandais à la deuxième et les Springboks à la troisième. Voilà. Ouais.
Un dernier petit mot sur les All Blacks. On voit que la reconstruction entamée par Scott Robertson est en train de fonctionner. Hein. Il a repris une équipe avec un changement de génération. Et petit à petit, on voit qu'il construit son équipe et que ça commence à bien prendre. Hein.
Il a intégré pas mal de jeunes joueurs, mais je pense à Hollande, notamment en deuxième ligne, qui est un digne héritier des deuxièmes lignes néo-zélandais, très mobile, très fort dans tout ce qui est le jeu aérien et puis surtout il a renouvelé la charnière donc avec deux jeunes demi de mêlée qui sont vraiment à top niveau et puis Boden Barek qui lui même si c'est un trentenaire revient au top niveau et a parfaitement assuré son rôle de chef d'orchestre dans ce match contre les Pumas donc on ne se fait pas de soucis, je pense, pour le match retour des All Blacks. Bon, il faut toujours se méfier des Argentins qui ont aussi montré de belles choses, notamment en début de deuxième mi-temps, en revenant, marquant deux essais, avec tous les joueurs argentins qu'on connaît très bien, puisque une bonne partie de ces joueurs évoluent
dans le 14,
dans le championnat français. Donc c'est vrai que ça fait vraiment une équipe de bon niveau.
Donc on l'a dit, le bis repetita de cette journée qui a eu lieu ce week-end, le week-end prochain, avec Afrique du Sud, Australie, puis Argentine-Nouvelle-Zélande. C'est une saison complète, on va dire, sur le rugby championship. On aura 6 journées, alors qu'on a eu parfois des rugby championship un peu tronqués. Donc là, on va avoir cette double confrontation qu'on a eue ce week-end et le week-end prochain.
Ouais.
Ensuite, l'Australie accueillera l'Argentine 2 fois, pendant que la Nouvelle-Zélande accueillera l'Afrique du Sud 2 fois. Et sur la dernière journée, la Nouvelle-Zélande accueillera l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Argentine. Et on mixera sur la dernière journée, on inversera les matchs de cette 5e journée pour finir avec un Australie-Nouvelle-Zélande qui sera le cas de la la Ladies Lock Up, et puis l'Argentine recevra l'Afrique du Sud.
Absolument, et je pense que les All Blacks, vu leurs prestations, et vu qu'ils reçoivent deux fois quand même les Sud-Africains chez eux, c'est toujours très dur d'aller battre les All Blacks chez eux, donc je pense que il faut vraiment que les Sud-Africains se réveillent s'ils veulent pouvoir exister dans cette édition du Rugby Championship.
Oui. Tout ça nous amènera jusqu'au 4 octobre. Absolument. On va passer maintenant à la MotoGP. Eric Figuère avec vous. C'était la 13e manche du championnat du monde, Grand Prix d'Autriche. Et il y a eu un petit peu de bouleversement, en tout cas en ce qui concerne les pole positions. On attendait soit un Marquez, soit l'autre Marquez. Et finalement, c'est Benzeki qui a pris la pole. Devant Marquez, Bagnaia et Marc Marquez. Par contre, pour ce qui est de la victoire, que ce soit en sprint ou en Grand Prix, Marc Marquez n'a que, une fois de plus, laissé les miettes à ses coéquipiers.
Ce qui est bien avec Marc Marquez, c'est qu'aujourd'hui, il n'a même plus besoin de faire la pole pour gagner tranquillement le Grand Prix. Alors, contrairement à beaucoup d'autres disciplines, quand on connaît le vainqueur à l'avance, c'est effectivement fade. Ce qu'il y a de bien avec la moto et la moto GP en particulier, c'est que ça n'est jamais fade. C'est spectaculaire, c'est un vrai régal de regarder ces courses. Et avec des pilotes comme ce sextuple champion du monde qui est Marc Marquez, eh ben c'est toujours un régal, puisque même quand il part pas devant, on sait qu'à un moment donné, il va tous les taper. Et c'est encore ce qu'il a fait ce week-end, avec quand même une belle opposition. Mais c'est incontestablement le plus fort. Alors c'est un lieu commun que de dire ça. Hein. Il s'en va tranquillement vers un septième titre. 71 victoires, je crois, en MotoGP, hein, en catégorie reine.
C'est ça, là, c'est la sixième victoire consécutive.
Voilà, 9 victoires sur 13 cette année. Voilà. Il a gagné encore une fois, il a fait le carton plein, à l'exception de la pole, bien sûr, mais sur ce week-end, puisque, avec comme la tu l'as sprint. Dit, il a gagné la course sprint. Donc, bon, voilà, il n'y a pas photo. Il est vraiment exceptionnel, et il est d'autant plus exceptionnel que quand on voit, parce qu'on est obligé de parler de lui quand même, mais bon, aujourd'hui, Marquez a la meilleure moto, ça fait pas de débat, mais Pecco Bagnaia a la meilleure moto aussi. Il est lui aussi un ancien champion du monde, et aujourd'hui, il n'existe plus.
C'est sa huitième sur ce Grand Prix.
Voilà, donc il a abandonné la course sprint, il finit huitième sur le Grand Prix, c'est catastrophique pour lui, et étant donné qu'on ne se pose pas la question de sa machine, de la qualité de sa machine, forcément, donc, il y a un problème sur le pilote. Et ça, c'est pas embêtant pour Marc Marquez, hein, même si il dira toujours qu'il aime la confrontation et il aime avoir de la meilleure opposition possible. Et on le croit d'ailleurs s'il le dit. Mais c'est vrai que c'est quand même plus que surprenant. C'est même triste. Alors que Quartararo n'est avec sa machine, avec sa Yamaha, effectivement, n'avance plus. Et du mal à attraper un point comme ce week-end en finissant 15e, c'est un fait.
Exactement.
Mais Bagnaia sur la Ducati d'usine, là, c'est vraiment... voilà, il y a quelque chose et on aimerait bien savoir quoi.
Alors, on n'a pas donné le podium complet, mais donc Marc Marquez s'est imposé devant Firmin Aldeguer sur Ducati Gresini et Mario Benzeki sur Aprilia. Pedro Acosta sur KTM prend la quatrième place. Il y a un mieux sur les KTM aussi. On les voit un peu plus performantes depuis quelques Grands Prix.
Ils sont plus réguliers et puis surtout parler du deuxième, hein, puisque c'est quand même
Firmin Aldeguer.
Pour le coup, c'est un rookie sur une moto satellite, hein, c'est pas une moto d'usine, hein, donc c'est quand même bien. On va voir ce que ça va donner effectivement par la suite. Est-ce qu'il va confirmer? Bon, après, derrière, ça bouge quand même pas mal, hein. On voit qu'à tous les grands prix, ça bouge un petit peu moins bien pour le frère de Marc, Alex, cette semaine. Ça va être pour lui, je pense, difficile aussi de briller tous les week-ends, même s'il a fait un début de championnat assez exceptionnel. On va voir ce que ça va donner. Et puis, ben, malheureusement, pour nos Français, qui ne sont pas à blâmer, parce que ça reste deux pilotes exceptionnels. Zarco l'a montré cette année encore. Et puis, Quartararo, on ne doute plus aujourd'hui de son niveau. Mais ils ont, voilà, ils ont des tacos, hein, faut le dire. Enfin, là, c'est pas une insulte, voilà, c'est pas désobligeant.
Je suis pas sûr qu'ils le prennent bien du côté
de
chez
Yamaha. Hein. Ah, ben, c'est sûr qu'ils doivent pas aimer, hein, mais je pense qu'ils doivent pas aimer tout simplement d'être, pour ce week-end, de mettre les quatre motos Yamaha en dernière position.
Quatre dernières, hein, places.
C'est quand même assez, enfin, c'est assez rare. C'est juste un cataclysme. Hein. C'était déjà cataclysmique depuis deux saisons maintenant. Je crois qu'ils ont touché le fond. Et quand on voit Quartararo dire c'est ridicule, oui, pour un champion comme lui dire que c'est ridicule et continuer à se battre, voilà, il y a rien qui va. Pour Zarco, sur sa Honda, il n'y a rien qui va. Alors, c'était formidable de voir les Ducati arriver, hein, il y a quelques saisons de ça, de casser un peu l'hégémonie japonaise. Mais à ce point-là, alors moi, je ne suis pas le grand spécialiste de la moto, hein, mais j'aimerais bien quand même qu'on m'explique.
Je ne sais pas si on aura des explications, mais en tout cas, effectivement, les Ducati, qu'elles soient d'usine ou satellite, ont pris largement le pouvoir. Donc, il va falloir que les intervalles qui sont donnés aux autres écuries pour travailler pendant les temps où il n'y a pas de Grand Prix soient mis à profit, parce que là, effectivement, il y a des très très gros écarts qui sont en train de se creuser entre les premiers et les derniers.
Mais c'est très surprenant de voir à quel point on les voit dans leurs explications, hein, à quel point ils ont du mal. Bon, on a vu Quartararo qui a fait quand même plusieurs pôles cette saison, donc il sait aller vite, et la Yamaha est capable sur certains tracés d'aller vite.
Sur un tour,
et on voit à quel point ils ont des difficultés. Ils le disent tous les deux, hein, Fabio et Johan. Dès qu'ils sont derrière des machines, d'autres machines, c'est la catastrophe. Ils ont une usure de pneus qui est dramatique. Ils n'arrivent plus à doubler. Le comportement de la machine, qui est déjà pas exceptionnel, là, tout d'un coup, se dégrade. C'est de manière catastrophique. Et puis, il se passe plus rien, quoi. Donc là, ça devient. Alors, problématique évidemment pour eux, hein, problématique pour nous qui suivons, qui espérons, qui supportons, mais pour eux, quelle tristesse.
Alors, au championnat du monde, Marc Marquez est très confortablement en avance, avec 418 points devant son frère Alex à 276 points, donc quasiment 140 points d'avance, un petit peu plus de 140 points d'avance, hein, pour Marc Marquez. On va pas dire qu'il est champion du monde,
on sait malheureusement qu'en moto, un accident est vite arrivé. Donc on ne lui souhaite pas, bien évidemment. Il a eu son lot, Marc Marquez, de graves blessures, ce qui l'a handicapé quand même pendant plusieurs années. Maintenant, il est revenu. Il est tellement fort, il pilote tellement bien. C'est pas quelqu'un qui va se relâcher, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Mais hormis effectivement une chute qui l'handicaperait sur un certain nombre de courses, qui pourrait voir revenir les poursuivants. Bon, voilà, il n'y a pas de doute, hein, sur voilà. Puis de toute façon, c'est le plus fort. Il sera champion à la fin, et voilà, ce sera tout à fait normal.
Un petit mot sur, donc, on l'a dit, Johann Zarco, 9e, 114 points, et 10e, Fabio Quartararo, 103 points, et 3e, Bagnaia, 221 points, mais qui voit un peu Bezzecchi se rapprocher à moins de 35 points. Donc,
bon, il n'y a pas grand-chose à dire, on l'a dit pour les Français, hein, enfin, après qu'ils finissent 8e, 10e, 12e, je pense que même pour eux, ça ne changera pas grand-chose. Encore un petit intérêt aussi de voir le retour de Martine. Voir un petit peu le champion du monde en titre, voir ce que les prochaines courses vont donner. Je pense qu'il aura quand même beaucoup de mal, mais ça, de toutes les manières, ce sera intéressant.
Oui, on va retrouver en pleine possession de ses moyens au fur et à mesure des Grands Prix, et puis avec une moto qui va peut-être arriver à être un peu plus performante aussi.
Sans aucun doute.
On va enchaîner avec vous, Eric, avec le football. Je ne sais pas si on l'attendait, mais en tout cas, elle est là, la reprise de la Ligue 1. On a l'impression que le football ne s'arrête vraiment plus jamais. Mais en tout cas, voilà, c'était la reprise de la Ligue 1 ce week-end. Avant cette reprise, on peut peut-être dire un petit mot sur la Super Coupe d'Europe entre le PSG et Tottenham cette semaine.
Oui, c'était. Alors, on attendait, même si on savait que l'interruption, enfin que le temps qui est passé depuis la finale de la Coupe du Monde, des clubs, ne permettrait pas à Paris d'être au top. On le savait. Malgré tout, ils ont fourni plutôt une bonne prestation en finale de cette Super Coupe. Très honnêtement, j'ai longtemps cru qu'ils perdraient cette finale, et ça n'aurait pas été illogique d'ailleurs, puisque les Anglais, sans être exceptionnels, avaient fait le travail. Et puis, c'est le propre des grandes équipes aujourd'hui. En jouant, et ils l'avaient déjà prouvé, hein, ne serait-ce qu'en championnat, en jouant un petit peu moins bien sur les ressources, sur le talent, voilà, on est capable de revenir. Bon, un deuxième but, effectivement, pour le Paris Saint-Germain, encaissé, évitable, certes, mais ce sont des choses qui arrivent. Et puis une séance de tir au but, certes, qui, on le sait, c'est un lieu commun que de dire que ça peut tourner en faveur, en défaveur, etc. Elle a été en tous les cas bien négociée, avec un très bel arrêt pour revenir de Lucas Chevalier. Donc une belle victoire qui confirme cette saison exceptionnelle. Voilà, maintenant la question c'est voilà, que va faire Paris en Champions League l'année qui vient? Est-ce que cette équipe va être capable d'être hégémonique et de faire ce que peu de clubs ont fait, de gagner plusieurs titres voilà en quelques années? On va voir ça, j'ai quand même hâte de voir un petit peu cette saison de Champions League commencer.
Bon, eh ben on va déjà attendre le tirage au sort. En attendant, donc c'était la reprise de la Ligue 1 avec un premier match qui va pas vous faire plaisir, la défaite de l'Olympique de Marseille à 11 contre 10 à Rennes.
Comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'OM a fait de l'OM, voilà, mon grand désarroi, mais on en arrive à presque à ne plus être surpris, malheureusement. Alors, on s'attend pas à ce qu'ils perdent, hein, bien évidemment. Ils avaient fait un recrutement correct, la pré-saison avait été plutôt intéressante, plutôt bonne, avec une bonne intégration des nouveaux, donc il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Après, aller à Rennes n'est jamais un déplacement facile, et perdre à Rennes n'est pas non plus infamant. Voilà, c'est toujours embêtant quand on laisse entendre qu'on veut concurrencer Paris que de perdre ce premier match même à l'extérieur. Après, il y a perdre et perdre. Voilà, même s'ils ont malgré tout, c'est mon avis, dominé le match. Voilà, ils méritaient pas plus de gagner que ça, donc ils finissent par perdre dans les arrêts de jeu ou à toute fin du match. Comme tu l'as dit, en supériorité numérique, donc c'est quand même très embêtant. Ils n'ont pas su trouver les ressources. Là où on peut se poser des questions, c'est quand même effectivement sur le choix des joueurs sur lesquels a opté l'entraîneur. Là, c'est voilà. Alors évidemment, hein, il sait mieux que nous ce qui se passe dans la semaine, il sait mieux que nous ce qui se passe à l'entraînement, et il a évidemment une idée de ce qu'il veut construire, de ce qu'il veut faire. Mais force est de constater que le résultat est plus que, ou en tous les cas, est pas du tout probant. Donc, dans le sport, on peut toujours dire ce qu'on veut, on regarde au résultat. Alors la manière, c'est bien. Alors là, la manière, elle n'était pas tout à fait. Mais bon, c'était pas inintéressant quand même. Mais bon, le résultat, il est là, et on peut toujours dire ce qu'on veut. Quand on gagne, on peut. Voilà, pour le coup, dire ce qu'on veut. Et quand on perd.
Habib Bey, l'entraîneur rennais, avait dit quelque chose l'année dernière. Il avait dit les matchs contre Paris, c'est 6 points en tout. Et voilà, donc là, au-delà de la défaite, ce qui est plus embêtant, c'est les 3 points de perdu dans la course au titre, finalement, où Marseille souhaite réduire l'écart par rapport au PSG.
Voilà, donc on veut réduire l'écart, et c'est tout à l'honneur d'ailleurs de l'OM, et c'est tout à fait normal. Ils veulent concurrencer Paris, parce que l'OM, ça n'est pas n'importe qui. Hein, l'OM nous a produit le meilleur football français avec le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, avec le Nantes d'une année exceptionnelle et avec ce que très peu de clubs ont fait. L'OM des années fin 80 et début 90 nous a produit ce jeu exceptionnel. Paris aujourd'hui le fait. Marseille aimerait bien évidemment revenir et concurrencer Paris. Il y a encore beaucoup de chemin, alors pour tout un tas de raisons, bien sûr. Mais là, voilà, c'est un mauvais début de saison. Alors, il n'y a qu'un match, bien évidemment. Hein, ils ont perdu 1-0 à Rennes, c'est pas la fin du monde. Voilà. Mais le prochain match, évidemment, sera révélateur, si ce n'est des ambitions, en tous les cas, d'un commencement de niveau.
Allez, on va s'attarder s'intéresser aux autres matchs qui ont lieu dans cette première journée. Lens s'est fait surprendre par Lyon à domicile, 1-0.
Oui, c'est une demi-surprise. On attend quand même à ce que Lyon fasse un bon championnat, même si l'intersaison a été un peu compliquée avec ce que l'on sait, la rétrogradation qui n'en a pas été, etc., etc. Une petite surprise parce que Lens est un club qui jouera, je le pense, si ce n'est les 3 premières places, mais en tous les cas les premiers rôles. Voilà, c'est un premier match qui est toujours un peu particulier. Voilà, bon, Lyon s'impose. On attendra un petit peu avant de tirer des conséquences de ce match.
Monaco est le premier leader de ce championnat, de cette Ligue 1, avec une victoire 3-1 face au Havre à domicile.
Et Monaco est prêt. Voilà, Monaco a bien travaillé. Monaco n'a pas laissé partir ses meilleurs joueurs, même si tout n'est pas encore terminé au rayon des départs. Mais ils sont prêts, ils travaillent tranquillement dans le sud, là-bas, à l'écart de tout. Ils font pas de bruit, et ça, c'est plutôt positif. Et puis, et voilà, ils font un bon premier match.
Et pour une fois, ils ont plutôt été dans la stabilité à l'intersaison. Ouais. Il y a assez peu de changements, que ce soit d'entraîneurs ou de joueurs.
D'habitude, ça bouge énormément. On ne sait pas trop. Et d'ailleurs, peut-être eux ne savent pas toujours trop où ils vont. Et puis là, ça change un petit peu. Et peut-être que justement ne l'ont pas annoncé, mais c'est peut-être eux qui pourraient, voilà, qui pourraient donner du fil à retordre aux Parisiens.
Rapidement, un petit mot sur Nice qui s'est incliné à domicile contre Toulouse 1-0. Mauvais début de saison pour les Niçois qui ont perdu deux fois contre Benfica pour l'accession à la Ligue des Champions. Donc ils joueront la Ligue Europa. Trois matchs, trois défaites, et pas de but marqué. Bah,
ça, c'est surtout très embêtant. Et c'est ce qui est surtout très embêtant, c'est le contenu, quoi. Alors moi, je suis un fan de Franck Hez, l'entraîneur de Nice. Donc c'est embêtant pour lui parce qu'on sait qu'il a d'énormes qualités, mais là pour le coup je suis quand même très inquiet parce qu'ils ont strictement rien montré contre Benfica, mais vraiment rien montré,
aussi bien à l'aller qu'au retour d'ailleurs.
Donc ça c'est embêtant. Benfica certes était le favori de ce match de barrage. Benfica et on l'a vu d'ailleurs fort logiquement meilleur que Nice, mais sans rien montrer, c'est embêtant. Premier match à domicile contre une équipe de Toulouse qui, a priori, ne cassera pas la baraque cette année, malheureusement pour eux. Ils perdent 1-0. Là, pour le coup, réveil obligatoire. J'ai pas le programme de la deuxième journée, pardon, mais réveil obligatoire. Parce que là, Nice... Et ce qui est d'autant plus embêtant, c'est que là, il y a un investissement. Il y a un investisseur, pour le coup, Ineos. Et là, on comprend pas trop. Alors, ils ont été cherchés l'un des meilleurs entraîneurs français. Donc ça, c'est plutôt une bonne pioche. C'était intelligent. Mais derrière, on a du mal à suivre. Voilà.
Un petit mot aussi sur Olivier Giroud. Première journée, premier but. Il est là.
Magnifique.
Sur le match 3 partout entre Brest et Lille.
Voilà, qu'on soit fan de lui ou pas. Il est toujours là, 38 ans. Une hygiène de vie impeccable. Il est parti un an aux États-Unis. On peut toujours penser que lorsqu'on s'en va comme ça dans ces pays-là, il se passe plus grand-chose. Alors évidemment, là aussi, c'est un premier match. Faudra voir ce qu'il va faire dans la durée. Son entraîneur a l'intention de l'économiser, de faire très attention à lui. Hein. Il en a parlé à plusieurs reprises. C'est évidemment ce qu'il faut faire avec ce genre de joueur.
Il va être précieux en Coupe d'Europe.
Il va être précieux. Il a une énorme expérience. Oui. Et puis il est là. Il a exactement les mêmes qualités que les années précédentes où on l'a vu briller, que tout ce qu'il a fait en équipe de France. C'est le même joueur. Voilà. Alors oui, il pourra pas jouer tout le temps, ça c'est une certitude. Et puis bah il redémarre au bout de 10 minutes de jeu, il marque un but.
C'est ça.
Voilà, c'est superbe quoi, c'est chouette et ça donne vraiment un bel intérêt à cette saison.
Et le dernier petit mot de cette première journée de championnat, le dernier match de ce matin entre Nantes et le PSG, victoire du PSG 1-0.
Oh, une équipe bis, hein, une équipe bis. Voilà, qui gagne pas facilement son match, hein, parce que certes, ils étaient supérieurs à Nantes, mais une belle équipe de Nantes quand même qui a montré un peu de jeu, c'était assez sympa. 1-0-0 aurait été tout à fait normal à mon sens. Voilà, mais Paris aujourd'hui s'est gagné sans bien jouer, s'est gagné avec la moitié de remplaçants. Voilà, dernière demi-heure, ils ont fait rentrer quelques joueurs cadres et on a vu effectivement la différence de niveau. Alors c'est assez intéressant puisque ça leur permet en championnat de France de gagner des matchs sans bien jouer, c'est très positif. Et à la fois, malgré la saison exceptionnelle en termes de résultats, mais exceptionnelle en termes de niveau, de prestations, de qualité technique, de jeu collectif qu'ils nous ont montré. Malheureusement, c'est un peu inquiétant, voilà, que le banc. Alors, c'est une première journée. Il y a eu cette interruption, enfin cette intersaison qui n'est pas une intersaison normale. Donc, il faut leur laisser un petit peu de temps. Il faut leur laisser un petit peu de temps aussi aux joueurs qui n'ont pas beaucoup joué l'année dernière, comme Zaïre Emery, par exemple, de revenir à un bon niveau. Espérons qu'ils puissent jouer suffisamment. Ça peut être aussi le problème de peu jouer et de garder un bon niveau. On va voir ce que ça va donner.
Ok, Eric, merci pour cette analyse football et on se retrouve tout de suite pour les brèves après une page de pub.
RRB, la pub. Envie de changer de tête ? Avec Palette de Schwarzkopf, participez au jeu Palette et moi jusqu'au 31 août. Postez votre photo avant, après, récoltez un max de likes et gagnez un relooking coiffure ainsi que des lots de la gamme Palette. Rendez-vous sur le Facebook Sac et Bon NC. À vos selfies, prêts ? Likez ! Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible chez Maître Citrita.
Tu as moins de 30 ans ? Tu veux trouver un emploi ou lancer ton projet en Nouvelle-Calédonie ? Rejoins le programme de parrainage de talents calédoniens. Un chef d'entreprise t'accompagne t'accompagne, tu bénéficies d'un réseau, d'ateliers et d'un suivi personnalisé pour réussir ton parcours. Inscris-toi vite sur la page Facebook de Talents Calédoniens en remplissant le formulaire. Candidature ouverte jusqu'au 24 août. Inscris-toi vite et fais décoller ton avenir. Talents Calédoniens, un par un pour demain.
Vous êtes artisan et vous voulez vous former ? Avec le dispositif 3FA, c'est simple et rapide. Choisissez votre formation au CFA de la CMA, remplissez le formulaire en ligne et jusqu'à 60 000 francs par an peuvent être financés par la CMA. Des compétences en plus, un métier qui avance. Tout commence au CFA de la CMA. Rendez-vous sur www.cma.nc/3FA. Le formulaire est en ligne, il suffit de quelques clics. 3FA, le dispositif qui donne de l'élan aux artisans.
Vous êtes sur RRB, plus la peine de zapper.
La suite de votre semaine Sportmidable avec Olivier Ledain.
Une semaine Sportmidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
On reprend donc cette émission avec les brèves sportives de la semaine. Et Bruno Salvé, il y a un homme qui est au-dessus de tout le monde, dans tous les sens du terme, dans sa discipline et en hauteur. C'est Mondo Duplantis qui a passé cette semaine 6m29. 13e fois qu'il bat le record du monde, son record du monde. C'est juste jusqu'où, stratosphérique.
Oui, jusqu'où va-t-il aller ? C'est la question qu'on se pose tous. Bien sûr, on attend le record d'un chiffre rond, 6m30. Quand est-ce qu'il va le faire ?
Ça devrait plus tarder au rythme où il est parti.
Ça devrait pas tarder, ouais. Et puis, j'étais en train de regarder son gabarit. C'est un gars qui fait 1m81 pour 79 kilos. Donc, c'est pas un monstre, mais il a une telle vitesse et une telle technique qu'il arrive à sauter à des hauteurs invraisemblables. Donc, chapeau à Monsieur Duplantis.
Presque un an jour pour jour après son record du monde au JO, qu'il a battu 4 fois après. Donc, ouais. C'était la 4e fois depuis les JO qu'il battait son record du monde. Donc, en un an, il a cassé le record du monde 5 fois. C'est Eric Figuer.
Il y a différents types de champions hein, dans différentes disciplines. Et là, tu viens de parler de sa taille, de son poids. C'est pas un Golgothe. Et j'en parlais tout à l'heure. C'est un gars qui est sympa, qui est apprécié de tous, qui a toujours le sourire, qui est toujours de bonne humeur. Manifestement un type bien. Alors, il n'est pas question de dire évidemment que les autres champions ne sont pas des types bien parce qu'ils gagnent, hein, bien évidemment. Mais voilà, on le voit. Il est tranquille, sûr de sa force, et il bat record sur record. C'est une belle image du sport qui nous donne. J'aime bien.
Bon, eh bien, on va suivre, puisque le 6m30, au rythme où il est parti, ne devrait
et
pas tarder.
Et n'oublions pas son âge, hein, 24 ans, je crois.
Il est très jeune. En plus, ouais, donc, voilà, donc il a une marge encore.
C'est très impressionnant. Il est assez à l'aise, il a de la marge. Bon, il n'a pas trop d'opposition, malheureusement, c'est dommage.
Il a des championnats du monde cette année, donc fort à parier qu'il sera champion du monde assez tranquillement.
Voilà, on peut mettre une pièce.
Voilà, sans prendre trop de risques. La cote est faible. Ouais. On va parler tennis maintenant, messieurs, avec un petit peu de cocorico. Ah, une fois n'est pas coutume. Double cocorico. On va commencer par Terence Atman, qui est demi-finaliste, alors inconnu du grand public, hein, qui est demi-finaliste du Masters 1000 de Cincinnati en battant Rune, Fritz et Fonseca, s'il vous plaît.
Deux top 10
et Fonseca qui est top 40 maintenant.
Il était au-delà de la 100e place mondiale.
Il était 136e, voilà. Il se retrouve 67e cette semaine. La vie va changer pour Terence Atman.
Il a dit, et c'était d'ailleurs très sympa de l'écouter après son quart de finale, où il disait voilà, très naturellement, humblement, simplement, ben oui, je vais passer dans le top 100 mondial, c'est fabuleux, je vais aussi gagner un peu d'argent, on voit toujours que les meilleurs, et on sait que les meilleurs gagnent énormément d'argent, mais on voit pas du tout tous les autres, quelles que soient les disciplines, qui rament quand même pour vivre de leur passion, de leur métier, donc c'est bien aussi de les entendre le dire de cette manière-là, et puis c'est un joueur qui est au-delà manifestement d'être sympa, je dis manifestement parce que comme tu le dis, il était inconnu du grand public, bon, j'avais vu son nom passer quelques fois, mais voilà, il n'avait pas du tout accroché, et c'était normal parce qu'il n'y avait pas de résultats. Et puis là, au-delà de ces résultats-là, on peut écouter un petit peu les commentaires des spécialistes, des anciens joueurs. Et là, il y a un coup droit dévastateur. C'est un gaucher, hein.
Exactement.
Un coup droit dévastateur. Moi, je l'ai regardé du coup un petit peu jouer, pas contre Sinner, mais les quelques images de ces de, de, de ses matchs précédents. Et c'est vrai que c'est très impressionnant et c'est très agréable à voir. Donc, comme pour notre petite Française qui s'est révélée il y a quelques semaines de ça.
Louise Boisson.
On va voir et on a hâte de voir ce que ça va donner parce que un beau sportif et puis impressionnant, quoi. Donc, si le tennis français pouvait nous montrer des choses aussi intéressantes que celles-là, plus régulièrement, là, ça nous ferait vraiment plaisir.
Il sera forcément, un beau joueur. Il sera forcément attendu à l'US Open et on a hâte de le voir. Il y en a une autre qui s'est montrée cette semaine, c'est Varvara Grasheva, qui a changé de coach il y a quelques semaines et qui fait quart de finaliste à Cincinnati. Elle était encore la numéro 1 française il y a quelques semaines avant que Louise Boisson ne passe devant. Mais là, elle a vraiment bien géré son tournoi. Elle se retrouve en quart de finale d'un Masters 1000 pour la première fois de sa carrière. Elle passe pas si loin d'accéder aux demi-finales.
On sait que c'est un espoir du tennis français, j'allais dire du golf français, pardon, du tennis français. Donc c'est la première fois qu'elle est vraiment performante. Donc là aussi, on espère qu'elle va continuer comme ça. Il y a pour le coup du vrai potentiel. Je pense que tu es plus au courant que moi pour cette joueuse et pour le niveau du tennis français et notamment féminin. Je pense qu'il y a quelque chose à faire.
Il y a un vrai changement de cap en tous les cas dans son jeu, avec un jeu beaucoup plus tourné vers l'avant depuis quelques semaines et ce changement d'entraîneur. Donc on va voir si ça paye dans les semaines à venir,
voilà,
et notamment à l'US Open.
Toujours être prudent avec les changements d'entraîneur. Voilà. On sait, quelles que soient les disciplines, et notamment ces disciplines individuelles où les changements de coach sont assez fréquents. Voilà, on va de l'un à l'autre, on revient aux anciens. Bon, l'important, c'est que ça marche. Des fois, ça apporte un peu de fraîcheur, un éclairage nouveau, des idées nouvelles. C'est bien, pourvu que ça marche.
Un petit mot, enfin, pour dire que donc on va avoir droit à le nouveau classique entre Jannik Sinner et Alcaraz demain matin pour la finale de Cincinnati, et que Iga Swiatek sera elle opposée à Jasmine Paolini sur le même tournoi. Ces quatre joueurs sont donc très en forme à quelques jours de l'US Open.
On a eu des Big Four, des Big Three, là on a un Big Two. Voilà, chez les garçons, en tous les cas.
Donc, oui, pour l'instant, ils semblent un peu seuls au monde, tous les deux.
Mais on a envie de les voir. Et puis là aussi, c'est deux beaux sportifs, deux belles personnalités. Alors voilà, on ne va pas parler de choses extra-sportives, mais c'est des joueurs qui sont très agréables à voir. Et ça nous promet encore une belle opposition.
Mais si on est déjà à la fin de cette émission, et donc ça va être l'heure de vos traditionnels coups de cœur ou coups de griffe. Bruno, on va commencer par vous.
Oui, moi j'en ai parlé déjà tout à l'heure, je vais rester dans le rugby. Je pense que mon coup de cœur, c'est pour le capitaine courage de cette équipe Wallabies, à Harry Wilson, qui a montré l'exemple, qui a su remotiver son équipe pour pouvoir battre ses Springboks, et surtout qui a inscrit la bagatelle de deux essais, et qui, je pense que sur le deuxième essai, se blesse, mais on le voit quand même, il va jusqu'au bout. Donc bravo à lui, capitaine courage, et puis en espérant que sa blessure ne soit pas trop grave et qu'il puisse poursuivre à mener cette équipe Wallabies sur l'ensemble du Rugby Championship.
Eric, votre coup de cœur ?
Ben, du golf, bien sûr. On va parler très rapidement, mais c'est important d'en parler, du tournoi qui commence demain à Tina,
sur le SPGO.
Golf de Tina, du SPGO, le South Pacific Junior Open, qui cette année voit le retour de quelques étrangers, en l'occurrence quatre Australiens, on en a parlé tout à l'heure aux infos, et d'une Polynésienne. Donc ils viennent avec le coach calédonien et aujourd'hui australien, qui est Loïc Truet. Donc c'est bien, ça va redonner un petit peu de peps. On espère que le temps sera de la partie. Il y a une quarantaine de jeunes, c'est pas prévu pour le temps, mais il y a une quarantaine de jeunes qui sont présents. Il y a du bon niveau, les jeunes jouent très bien au golf. Ils sont beaux à voir, ils sont agréables. C'est un très très beau parcours, donc j'encourage tous ceux qui ont un peu de temps devant eux, encore une fois, si le temps le permet, de venir regarder un peu ce qui se passe à Tina. Il y a du spectacle et c'est très sympa à voir.
Bon, ben voilà, le message est passé. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur cette émission et on se retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle semaine formidable.
Bonne soirée à tous.